Salut à tous, What a Movie un peu spécial parce qu'il est 23h lorsque j'enregistre, que j'ai un long week-end qui arrive hein, et puis qui m'empêchera de rentrer avant même la première diffusion mardi à 16h de l'épisode et que je n'aurai absolument pas le temps de faire un épisode classique. Alors je vous laisse avec de l'interview principalement, hein, de la bande-annonce peut-être, mais aussi quelques petits podcasts que j'ai dénichés à droite à gauche. Au programme donc, l'immanquable Junkhead de Takahide Hori, qui fait absolument tout dans ce film d'animation japonais.
Petit podcast bonus en solitaire sur un film d'animation japonais très underground, sorti ce mercredi en France dans uniquement 49 salles, en mode stop motion. Vous savez, hein, cette technique d'animation qui a été popularisée par les studios Aardman ou encore Tim Burton, sans oublier son collègue Henry Selick. Bref, ici, un projet qui date d'il y a une dizaine d'années, voilà, et qu'il a mis du temps à mettre en place, forcément, puisqu'il a pratiquement travaillé tout seul à 100%, enfin, il a été aidé ensuite pour les voix, mais bon, c'est lui qui est derrière le projet depuis le début. Un court-métrage en 2013, ensuite, ce film a été finalisé en 2017, il n'est sorti nationalement au Japon que l'année dernière, et donc il débarque chez nous cette année, pour nous plonger dans une science-fiction dystopique qui se déroule dans un futur très lointain, où l'humanité a évolué vers une quasi-immortalité ou du moins une très grande longévité grâce à des manipulations génétiques et cybernétiques, sauf que la survie de celle-ci est menacée par un virus qui est en train de décimer pratiquement toute la population. Du coup, des scientifiques envoient un explorateur dans les souterrains infinis où sont réfugiés les Marigans, des anciens esclaves travailleurs qui avaient été créés par les humains qui se sont rebellés 1600 ans avant, donc vous imaginez l'avenir lointain que nous avons ici, parce qu'ils détiennent visiblement la clé de la reproduction, les humains ayant tellement évolué de façon impersonnelle qu'ils ne sont plus capables d'interagir et du coup d'avoir des enfants. On se concentre donc sur l'aventure de cet homme envoyé vers les sous-sols. Malheureusement, ça va très vite mal se passer pour lui puisqu'il va finir en 1000 morceaux, donc techniquement mort, mais très vite ressuscité par les Marigans scientifiques d'en dessous qui vont transférer, on va dire, son existence dans le corps d'un robot, d'où le titre, hein, Junkhead. Il va se retrouver, voilà, avec un nouveau visage. Mais quelque part, n'était-il pas un peu robotisé d'une certaine façon puisqu'il survivait en haut derrière un masque d'humain tellement il avait été défiguré ou était devenu tellement impersonnel suite aux manipulations génétiques et sa longue vie, etc. Il y a déjà ce questionnement-là, est-ce que l'humain est encore humain? Du coup, ne va-t-il pas retrouver une forme d'humanité indirectement au contact de ces esclaves qui se sont rebellés et qui continuent quand même à vénérer ces humains comme des dieux? Donc il débarque là, il est reconstitué, très vite ils se rendent compte, les Marigans, qu'il est humain de base, donc ils vont le considérer comme un dieu. Mais dans cette quête vers le secret de la reproduction, il va se perdre plus d'une fois et descendre vers les enfers de ses souterrains, toujours plus bas, à la rencontre d'autres survivants, mais aussi des monstres, des créatures de plus en plus grosses. Et alors, que va-t-il se passer? Survie ou pas? Quête initiatique d'une certaine manière? Évolution spirituelle? Je n'en dis pas plus, je vous laisse la surprise, parce qu'il s'agit vraiment d'une petite œuvre remarquable, une pépite.
Il y aura aussi deux séances pour voir Plume de l'Égyptien Omar El Zoheiri.
En 2021, à seulement 33 ans, Omar El Zoheiri est le premier réalisateur de son pays à remporter le Grand Prix à la Semaine de la Critique du Festival de Cannes avec Plume, son premier long-métrage. C'est Transit d'ennui à l'aéroport qu'il a pondu le pitch absurde de sa comédie noire. La star de son film, une poule. Mais dis donc Omar, on n'a pas vu son nom au générique. T'en as fait quoi? Des nuggets?
Yes.
Oui. Mais non, je ne l'ai pas mangé. Elle est toujours en vie. Elle tourne dans un autre film. Elle fait des pubs pour KFC. Oubliez ce que vous savez du cinéma. Oubliez vos attentes. Détendez-vous.
Débarrassez-vous de vos étiquettes. Ne pensez pas à un nom, ne pensez pas à personnage, ne pensez pas à pays, ni nationalité, religion ou couleur. Je me moque de tous ces marqueurs d'identité. Le style de mon film n'est ni égyptien, ni arabe, ni français. C'est juste quelque chose d'unique qui est né de ma façon de penser et de voir la vie.
Né au Caire en 88, Omar est biberonné au grand film égyptien de Youssef Chahine ou Mohamed Khan, qu'il regarde midi et soir à la télé avec sa grand-mère et au cinéma avec sa mère, ex-danseuse de ballet. Le cinéphile grandit entouré de sa famille d'artistes, mais loin de son père ingénieur qui émigre alors qu'il n'a que 3 ans.
Je me souviens d'une des grandes interviews de Youssef Chahine. Il discutait avec un journaliste qui lui disait qu'il venait du tiers-monde. Ce à quoi il a répondu, non, c'est nous qui avons créé la civilisation, il y a 7000 ans. Nous sommes les pharaons, nous sommes la civilisation même. Être civilisé, c'est pas avoir beaucoup d'argent, c'est avoir des valeurs en tant qu'être humain, c'est être solidaire.
L'autre film à ne pas louper, c'est Limbo,
le deuxième film de l'écossais Ben Sharrock.
Mais c'est le masque et la plume.
Ah ouais, désolé, mais j'ai trouvé que ça. Il y avait bien des interviews en VO sous-titrées, mais à la radio, ça passe assez mal. Ou alors, il fallait tout redoubler, tout ça, ouf, trop long.
Avec Amir El Masri, la Danoise qu'on connaît, Sitz Babette Knudsen, Kenneth Collard, Omar, qui est un réfugié syrien et musicien, débarque sur une petite île écossaise. Il transporte un gros étui dans lequel se trouve l'oud. Vous savez, c'est cette sorte de luth à manches courtes qu'il a hérité de son grand-père. Et en attendant la décision administrative dont son sort dépend, Omar erre dans un no man's land battu par les vents. Alors parfois, il se joint aux autres demandeurs d'asile qui suivent, alors ça c'est des moments, il faut dire, hilarants, très Jacques Tati, des cours d'intégration culturelle, où on leur apprend comment se comporter en société, les bonnes manières à adopter. Et pendant que son frère se bat en Syrie, que ses parents sont à Istanbul, Omar est tiraillé entre son passé, évidemment, et un avenir absolument improbable. C'est à la fois émouvant et loufoque, avec une image hyper réaliste à la frontière du fantastique. Jean-Marc, tu l'as vu celui-là ?
Oui, absolument. Ouais. Je trouve le film touchant et drôle à la fois, dans un registre à la fois qu'on connaît.
Drôle avec des moments en même temps sinistres. Hein.
Ah oui, bien sûr, parce que c'est une surprise en fait que le film soit drôle, voilà. Parce que le sujet est grave. Et la surprise, c'est que le film est quand même plaisant et par moments très drôle, notamment lors des scènes de formation dont tu as parlé, qui sont vraiment des moments de très très grand comique où le cinéaste, que moi je ne connaissais pas du tout, je n'avais pas vu son premier film, est très très fort pour savoir arrêter une scène. C'est-à-dire que tout à coup, il y a par exemple, parmi les élèves, quelqu'un qui lève le bras, on pense qu'on va entendre la question et puis il coupe. Et c'est toujours inattendu la manière dont il chute à un moment donné où on ne s'y attend pas. C'est vraiment, il maîtrise complètement ce burlesque minimal qui fait un peu penser. Ce serait entre Coris Maki et Ilya Suleiman. Et le danger de ce type de cinéma, c'est que ça pourrait un peu déshumaniser les personnages. Et c'est pas le cas là du tout, parce qu'il fait vraiment exister très fortement ce personnage. L'acteur est très intense.
Alors que Omar a un visage qui est absolument impassible.
Et en même temps, il existe très fortement. Il est très attachant. Durant la durée du film, on est complètement avec lui et il suscite une empathie très forte. Donc c'est vraiment un film touchant.
Et on finit avec Les Passagers de la Nuit de Michael Hirst.
Si Les Passagers de la Nuit débute le fameux 10 mai 81, soir de l'élection de François Mitterrand, on fait rapidement un bond dans le temps, et le film est davantage une chronique de la décennie à venir qu'on suit dans le quotidien d'une famille, soit celle d'Elisabeth, qui après une rupture se retrouve seule à élever son fils et sa fille ado, et trouve deux petits boulots dans une bibliothèque du quartier, et comme standardiste dans une émission de radio qui se passe la nuit, où elle rencontre une jeune fille qui vit dans la rue et finit par l'héberger. Et dans le rôle de cette femme timide, émouvante, qui de mieux que Charlotte Gainsbourg, pour l'une de ses plus belle prestation de ces dernières années.
J'avais l'impression beaucoup de me jouer enfant. De jouer ma timidité d'enfant, de jouer presque ce que je jouais dans L'Effronté.
Et le reste du casting est à l'avenant. Emmanuelle Béard, en animatrice de radio, librement inspirée par une certaine Macha Béranger, les jeunes Noé Habitat et Quito Rayon Richter, ou encore Laurent Poitrenaud. Et cette famille paraît si juste à l'écran, dans son appartement du quartier Beaugrenelle à Paris. Rarement aussi cinégénique qu'ici, un décor idéal pour le cinéma du réalisateur Michael Herz, dont on avait déjà ressenti la sensibilité si fédératrice, mais jamais mièvre, dans Les Très Beaux, ce sentiment de l'été et Amanda. Les Passagers de la Nuit, séduites aussi par ses hommages à la culture sous toutes ses formes, livres, films d'Éric Rohmer, musique de Kim Wilde et Joe Dassin, entre autres, et sa reconstitution sobre mais réussie des rues parisiennes ou de la maison de la radio dans ces années-là.
Il y aura ce que nous avons été pour les autres. Simplement, nous étions là. Il y avait quelque chose de chaud, d'éternel.
En attendant, restez cinéphiles, allez au cinéma et à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que c'est bientôt la fête du cinéma.
Envie d'émotions fortes ? Tant mieux. Car la fête du cinéma revient à partir du 3 juillet. Vous allez pouvoir plonger pendant 4 jours et pour 4 euros la séance dans la fête du cinéma. Du dimanche 3 au mercredi 6 juillet, à 4 euros la séance, on est tous accros au ciné.
Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais. Le secret de la ville, pourquoi? Simplement pour te